BFM Business présente Good Evening Business. Thomas Asportas.
Sur BFM Business. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a bien sûr les élections en Russie. Ça y est, ça a commencé depuis ce matin en Russie. Les élections se déroulent tout le week-end. Plusieurs incidents ont déjà perturbé l'élection. Mais on va se demander ce soir sur BFM Business où en est l'économie russe 2 ans après le début de la guerre en Ukraine. On va en parler dans le journal dans un instant. Et puis bien sûr, on va poser la question à nos experts qui arrivent pour le grand débat de Good Evening à partir de 18h10. Ce soir, nous serons avec Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, Emmanuel Kessler, journaliste économique, et François Gérolf, économiste à l'OFCE. Avec eux, on va aussi revenir sur la dernière note de conjoncture de l'INSEE qui nous dit que l'économie française fait du surplace. Pourquoi est-ce qu'on reste scotché à 0% de croissance? Et on va aussi parler avec eux de cette alliance qui a été annoncée aujourd'hui du côté du Japon entre Nissan et Honda dans la voiture électrique. Pour contrer, on s'en doute, pour essayer en tout cas de contrer la menace chinoise. On voit bien que c'est l'union sacrée face aux nouvelles marques chinoises dans l'électrique. Voilà le programme de Good Evening, on est en direct jusqu'à 19h. C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence ce journal, bien sûr, avec cette visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Berlin pour rencontrer son homologue allemand Olaf Scholz et le Premier ministre polonais Donald Tusk. Une réunion de crise pour essayer d'apaiser les tensions entre la France et l'Allemagne sur le dossier ukrainien et pour tenter de trouver des solutions et notamment sur les aides à apporter à l'Ukraine. On écoute Emmanuel Macron.
Plusieurs actions concrètes ont été décidées. La première, nous l'avons consolidée le 26 février dernier, c'est acheter ensemble des munitions dans des pays qui ont des stocks, là où nous ne produisons pas assez vite, nous sommes en rupture. L'initiative a été prise par nos collègues tchèques, nous avons décidé de nous y joindre. Et puis, je veux remercier le chancelier qui a pris une responsabilité particulière dans les choix de coproduction industrielle sur le sol ukrainien. Nous avons également décidé de créer une nouvelle coalition capacitaire sur les frappes dans la profondeur. Elle est ouverte à tous selon ses capacités et ses moyens.
Voilà, Emmanuel Macron à Berlin, une visite qui intervient donc le jour où commencent les élections en Russie et qui vont se dérouler tout le week-end. Bonsoir Léa Rojo.
Bonsoir.
L'issue du scrutin, évidemment, ne fait aucun doute. Un cinquième mandat pour Vladimir Poutine jusqu'en 2030. Mais pour ce qui est de l'économie, Léa, la Russie résiste et c'est précisément grâce à la guerre.
Oui, tout à fait. La Russie est clairement en pleine économie de guerre. L'industrie militaire tourne à plein régime. Les dépenses militaires explosent en 2024 et doivent augmenter de 68% cette année pour atteindre 106 milliards d'euros. C'est 30% des dépenses fédérales et 6% du PIB en Russie. C'est ce qui a porté l'économie russe l'année dernière. Le taux de chômage a baissé et s'est installé sous les 3%. Et surtout, la Russie a atteint 3,6% de croissance. Selon Rostat, l'agence de statistiques publiques russe, cela devrait se poursuivre en 2024. Le FMI s'attend à 2,6% de croissance pour la Russie. La Russie qui résiste aussi parce qu'elle a réussi à contourner les sanctions occidentales. Le pays a trouvé de nouveaux partenaires en Asie. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de Moscou. Il achète près de 45% du pétrole russe. Deuxième partenaire, l'Inde, qui représente désormais 40% des débouchés pour le pétrole russe contre quasiment rien il y a 2 ans.
Bon, donc la Russie manifestement s'est adaptée, mais elle souffre quand même, Léa, des sanctions et de la guerre.
Exactement, la Russie est frappée par l'inflation entre 6 et 8% ces derniers mois à cause notamment du coût plus élevé des importations du fait des sanctions occidentales. Deuxième bémol, la Russie reste très dépendante de ses hydrocarbures. Et là, le marché européen s'est fermé. Les prix du gaz sont rentrés dans le rang et le pétrole est vendu moins cher que les cours mondiaux à cause des sanctions. Résultat, les recettes baissent, moins 10% en 2024 par rapport à décembre 2023.
Merci beaucoup Léa Orojo. 18h04 sur BFM Business. On poursuit avec cette très bonne nouvelle pour Naval Group puisque le gouvernement néerlandais vient d'annoncer aujourd'hui l'ouverture de négociations exclusives pour acheter 4 sous-marins à propulsion classique un contrat qui pourrait atteindre les 6 milliards d'euros d'après la presse néerlandaise. Jean-Baptiste Huette.
Le Black Sword Barracuda, voilà un nom qui résonne dans les oreilles des industriels néerlandais. Ce sous-marin à propulsion diesel électrique conçu par Naval Group vient de damer le pion à deux concurrents sérieux. D'abord l'allemand TKMS et surtout le régional de l'étape, le néerlandais Damen, associé au suédois Saab. Certains parlementaires néerlandais s'étranglent en voyant leur champion Damen passer à la trappe. Lobbying intense d'ailleurs ces derniers jours de la part des industriels pour tenter jusqu'au dernier moment de faire infléchir ce choix. Mais sans succès. Le secrétaire à la défense néerlandaise salue une offre équilibrée, polyvalente, réaliste. En effet, Naval Group devrait construire les sous-marins dans le nord du pays, où se trouve la plus grande base navale, avec de la main-d'œuvre locale. La décision doit toutefois encore être validée par la Chambre des représentants. Pas encore de triomphalisme pour Naval Group. Il s'agit bien de négociations exclusives en vue de la signature d'un contrat. Naval Group qui conserve toujours dans un coin de la tête le souvenir amer de l'Australie et du deal du siècle. 56 milliards dont le contrat avait été brutalement rompu après sa signature.
Jean-Baptiste Huette, on poursuit, 18h05, on poursuit avec cette alliance historique au Japon. Nissan et Honda annoncent aujourd'hui travailler à un partenariat stratégique dans la voiture électrique et les logiciels. Un accord inédit entre deux ennemis jurés de l'automobile, mais qui montre bien l'urgence pour les constructeurs traditionnels de s'allier pour répliquer à la nouvelle menace chinoise. Justine Bassogne.
Les entreprises incapables de changer seront éliminées. C'est le constat sans appel du patron de Honda ce matin. Face à la montée en puissance des acteurs émergents, explique-t-il, citant implicitement les constructeurs chinois, il faut réagir pour survivre. Nous n'avons pas le temps de nous asseoir et de nous détendre, abonde Makoto Uchida, le patron de Nissan. L'alliance du deuxième et du troisième constructeur japonais, rivaux historiques, montre bien que le temps presse. Dans un premier temps, Honda et Nissan vont étudier des collaborations dans les logiciels et les composants pour véhicules électriques, mais les deux groupes n'excluent pas un rapprochement capitalistique dans le futur. Ce partenariat, que certains décrivent déjà comme un acte désespéré, semble acter en tout cas définitivement la fin d'une autre alliance, celle entre Nissan et Renault. Le constructeur français fait lui-même des infidélités à son partenaire japonais. Luca De Meo a confirmé être en discussion préliminaire, notamment avec Volkswagen, pour partager la plateforme de sa future petite citadine abordable, la Twingo électrique.
Justine Vassogne, on poursuit avec l'information du jour dans le secteur des médias. Le groupe CMA-CGM rachète, c'est officiel, Altice Média, la maison mère de BFM Business, BFM TV et RMC pour 1,55 milliard d'euros. Le propriétaire de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, poursuit son offensive dans les médias en France. Rebecca Blanc-Lelouch.
Ça fait 2 ans que CMA-CGM et Rodolphe Saadé manifestent leurs ambitions dans le secteur des médias. En octobre 2022, l'armateur qui a enregistré cette même année un bénéfice net record de plus de 23 milliards d'euros est devenu propriétaire du groupe La Provence. Il s'est ensuite invité fin 2022 au capital du groupe M6. Il est monté à 10% au total pour ensuite siéger au board de la chaîne. Aux côtés de Xavier Niel, il a investi dans le média vidéo en ligne brut en 2023 et tout cela avant de prendre le contrôle de La Tribune via le rachat du groupe IMA de Jean-Christophe Tortora, aujourd'hui directeur général exécutif du pôle média de CMA-CGM et à l'origine de l'hebdomadaire La Tribune Dimanche, lancé l'été dernier. En intégrant les chaînes et les radios d'Altice, CMA-CGM dit vouloir constituer un pôle média de référence dans l'information, le sport et le divertissement.
Rebecca Blanc-Lelouch. Et on termine ce journal avec le Salon des Seniors à Paris, c'est du 13 au 16 mars, où Saint-Gobain présente son nouveau modèle d'appartement pour les personnes âgées. Reportage sur place de Mathilde Chamina et Zidane Azouzi.
Au cœur du salon, un appartement témoin de 96 mètres carrés dédié aux besoins des seniors.
Et ce qui est très important à adapter, c'est finalement le pilotage de l'éclairage la nuit qui est fait pour s'aider à se réveiller et à retrouver son sens de l'équilibre. Ça, c'est une douille, donc on enlève l'ampoule, on vient mettre ça à la place et vous avez ici un petit détecteur de mouvement.
Éclairage intelligent, barre de douche, main courante. Chaque année, 39% des Français de plus de 60 ans réalisent des travaux d'aménagement de leur domicile. Une dynamique qui va s'amplifier pour Jean-Philippe Arnoux, directeur Silver Economy chez Saint-Gobain.
Aujourd'hui, le marché de l'adaptation, c'est un marché qui est en plein essor et qu'on estime dans les 5 ans à venir à peu près à 2 milliards d'euros chaque année de travaux à réaliser pour adapter le logement, pour permettre aux seniors d'habiter chez eux, de rester chez eux le plus longtemps possible. C'est ce que souhaitent 90% des Français.
Des travaux dont le coût moyen est de 7 856 euros. Depuis le mois de janvier, une nouvelle aide, MaPrimeAdapt, a été mise en place pour accompagner les seniors dans le financement de leurs travaux. Objectif, multiplier par 10, d'ici à 2032, le nombre de seniors bénéficiaires.
18h09, on va sur les marchés. Les marchés où on retrouve votre Aude Kersulec en direct de Euronext. Bonsoir Aude, comment est-ce qu'on a fini la journée et la semaine à Paris?
Bonsoir. Mais quasiment à l'équilibre, on a amélioré notre record de clôture d'hier de 2 petits points seulement à 8164 points. 2 points, c'est pas beaucoup parce que quand même on a passé la journée autour, au-dessus même des 8200 points. On avait une Europe qui surperformait même les États-Unis, mais qui a bien réduit ses pertes en fin de séance. Alors ce petit stress de fin de séance, il y a deux raisons. D'abord, c'était une séance technique aujourd'hui, celle des quatre sorcières. Ça amène beaucoup de volatilité en fin de séance parce que c'est des échéances sur dérivés qui arrive à échéance. Et puis c'est surtout sur ce stress, on le retrouve surtout du côté de Wall Street par rapport à la semaine prochaine, à la réunion de la réserve fédérale. La Fed va-t-elle réduire l'ampleur de la baisse des taux qu'elle avait prévue cette année? On saura mercredi, on aura déjà un premier indice en tout cas, alors que cette semaine, pas mal de chiffres, notamment les coûts à la consommation, à la production américaine qui nous ont fait un peu, qui nous ont inquiété. En tout cas, ça amène de la tension sur les marchés obligataires. Ça fait baisser la tech du côté du Nasdaq qui perd plus de 1%. Du côté de la tech parisienne aussi, ST Microélectronique, c'était la plus forte baisse du jour à moins 3,5%. Donc un stress de fin de semaine au terme quand même d'une très belle semaine où l'on a gagné 1,7% sur le CAC 40.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, et très bon week-end. 18h11, on marque une pause sur BFM Business et dans un instant, nos experts arrivent et on débat en direct jusqu'à 19h. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Ça y est, ils sont là, nos experts, 18h14 sur BFM Business. On décrypte et on débat l'actu économique du jour avec ce soir Xavier Patrolin, bonsoir.
Bonsoir.
Président d'Albatros Capital, à vos côtés Emmanuel Kessler, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Journaliste économique et face à vous François Girolf, bonsoir. Économiste bonsoir. À l'OFCE. Messieurs, on commence donc avec la dernière note de conjoncture de l'INSEE qui nous a dit hier soir, je décide que la reprise en France se fait attendre. Bonsoir Camille Bourg, vous nous avez rejoint aussi en plateau. L'INSEE a revu donc hier soir à 0% sa prévision de croissance pour le premier trimestre de cette année contre 0,2% auparavant.
Oui, bonsoir, bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Oui, le PIB va faire du surplace au premier trimestre. L'INSEE envisage ensuite un très léger rebond au deuxième trimestre avec 0,3% de croissance, une croissance qui sera donc limitée au premier semestre. L'activité est mal orientée en ce début d'année. Des arrêts ponctuels en industrie, notamment le raffinage et l'automobile, vont pénaliser la croissance. Par ailleurs, dans le BTP, les mises en chantier de logements chutent un peu plus que prévu. Résultat, l'acquis de croissance à la mi-année serait de 0,5%. Toujours d'après l'INSEE, la France s'éloigne donc de ses objectifs pour 2024. Pour rappel, le gouvernement table sur 1% de croissance cette année.
Bon, donc la croissance est faiblarde. En revanche, et heureusement, l'inflation, elle aussi, rentre dans le rang, Camille.
Oui, alors qu'on était à plus de 6% il y a un an, l'inflation est tombée à 3% en février. Ce reflux devrait se poursuivre à 2,6% en juin prochain. Les prix alimentaires tendent à se stabiliser, indique l'INSEE. Cette désinflation devrait entraîner un relatif rebond de la consommation. Et c'est justement ce rebond qui doit permettre le léger redémarrage du deuxième trimestre.
Effectivement, c'est le scénario du gouvernement. Merci beaucoup, Camille Bourg. Messieurs, un petit tour de table sur ces chiffres. Comment est-ce que vous les regardez, notamment la croissance? Parce que pour faire simple, à part le deuxième trimestre de l'an dernier, on fait 0% à chaque trimestre depuis un an. Comment vous expliquez un résultat aussi médiocre, Xavier?
On fait 0% parce qu'il y a, tout simplement, il y a un choc sur le pouvoir d'achat de la demande interne. C'est valable en France et c'est valable en Europe. Alors, plus ou moins fort parce qu'il y a eu le bouclier... Pouvoir d'achat des ménages.
Et donc, c'est ça le problème, c'est la consommation, les ménages.
Oui. Et oui, donc ça met structurellement une pression. Vous avez le choc énergétique qui est une asymétrie par rapport, on le verra dans le deuxième sujet, par rapport à la situation nord-américaine qui expose l'économie européenne et l'économie française. Et donc, la combinaison de ces facteurs... fait une stagnation, mais cette stagnation, elle est faite au prix d'un déficit budgétaire et d'un endettement qui est allé croissant.
Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Hein, et oui, non, là, on est loin de zéro.
En termes relatifs, la France jusqu'à aujourd'hui, se comporte mieux que ses pairs européens. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que ça...
En termes d'activité, en termes de croissance.
Voilà, d'accord. C'est ça. Et puis vous
par rapport au PIB investi, par rapport à la dépense publique.
Voilà. Et dernier point, et je m'arrêterai là. Il faut quand même voir que pour l'industrie européenne et pour l'industrie française, le choc énergétique post le début du conflit russo-ukrainien est quand même assez dévastateur. On a des niveaux de production pour les secteurs qui sont énergétiquement intensifs, qui sont 10-15% en deçà de ce qu'ils étaient pré-conflit. Ouais, et donc ça pèse structurellement. L'industrie, même si après on a une exposition industrielle qui est plus ou moins
10%
forte
du PIB.
selon la position par rapport au Rhin, plus forte en Allemagne, moins forte en France, mais malgré tout ça pèse sur l'activité française, donc c'est pas si mal que ça malgré tout,
hein. Oui. Je voudrais juste ajouter deux points. Le premier, c'est qu'au fond c'est assez naturel qu'on ait une croissance faible, puisque ça marque la réussite de la politique de la Banque Centrale Européenne, puisqu'au fond, quand on monte les taux d'intérêt, on veut ralentir la machine économique pour faire baisser l'inflation. On va réussir à faire baisser l'inflation. Et donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients à une politique, et là, on le mesure avec cette baisse de la croissance, mais aussi des perspectives de retour à une inflation. Le gouverneur de la Banque de France nous disait cette semaine qu'il va réussir.
Oui, sur BFM Business, il l'a dit. Ouais.
Voilà, objectif.
C'est un engagement.
Si on regarde plus dans le rétroviseur, mais maintenant qu'on regarde en avant, il y a un défi majeur qui a été souligné en particulier par la Cour des comptes et son premier président Pierre Moscovici cette semaine, c'est qu'à partir du moment où on a cette situation de croissance faible, on a des rentrées fiscales qui sont très bonnes. C'est le cas d'ailleurs, on a eu les chiffres de TVA de 2023 qui ne sont pas bons. Les rentrées fiscales de 2024 ne sont pas très bons. Et faute de croissance, le gouvernement a revu sa prévision à la baisse, l'équation budgétaire de l'État et la question du niveau des déficits va se poser avec énormément d'acuité, puisque pour des comptes à chiffrer à 50 milliards l'effort qu'il faudrait faire si on veut revenir à 3% en 2027, ce qui est l'engagement qu'on a pris, c'est-à-dire, dit-elle, un effort sans précédent dans l'histoire récente. Donc on part d'une situation qui est encore plus dégradée que prévu, ce qui veut dire un effort encore plus important et qui va être difficile à faire parce que la France n'y arrive jamais. Bruno Le Maire nous avait dit l'année dernière, je vais faire une revue de dépenses, il ne l'a pas faite. Bon, il va le faire cette année.
Il l'a faite, mais elle a pas de résultat.
Voilà. Et donc ça ne
va la refaire.
Jamais.
Et effectivement, il doit trouver 20 milliards pour l'an prochain.
Il y a un vrai défi sur les dépenses publiques qui ne fait que s'accroître compte tenu de cette situation sur la croissance.
D'ailleurs, on a un économiste en plateau, on va en profiter. François Girolf, vous avez chiffré le déficit de l'an dernier ? Puisqu'il sera significativement au-dessus de 5, voire l'OFCE, vous savez dire à combien
c'est le trésor, pour le coup, on a besoin d'énormément de détails, notamment sur les rentrées fiscales qui sont confidentielles.
C'est l'INSEE qui va le dire fin mars, le 26.
Exactement, ils vont nous le dire fin mars.
Vous n'avez pas une estimation, non, de comment
on n'a pas d'informations privilégiées sur ce sujet. En plus, il se trouve que c'est extrêmement sensible comme information, donc on l'aura en même temps que tout le monde. Je pense que, il s'avère que ça va sûrement être soit à 5%, soit au-dessus de 5%, ce qui est très supérieur à ce qu'on attendait. Pour continuer le fil...
Je rappelle que l'objectif, c'était 4,9.
C'est ça. Et donc, pour continuer le fil du raisonnement, c'est si, en plus, donc, on casse la croissance, parce qu'on va être obligé, effectivement, d'augmenter sûrement les impôts. Enfin, on voit mal comment on va faire des revues de dépenses qui vont amener à des économies de 50 milliards sur 3 ans, ce qui est le chiffre dont parle le premier président de la Cour des comptes. Donc, 50 milliards d'euros, c'est absolument colossal. Donc on voit
pardon, 1600 milliards de dépenses publiques, au total.
Oui, mais alors
c'est beaucoup et en même temps.
Oui, mais dans les dépenses publiques, vous avez tout, vous avez les retraites, vous avez
l'État,
la santé,
l'État, dépenses sociales, collectivités.
Vous avez des choses
ça fait 1600.
Qu'on a du mal à faire à couper en fait. Chaque dépense publique, c'est ça paraît, y compris pour les 10 milliards, ils ont eu du mal. Pour les 20 milliards, on va en reparler là. Ça va être très très difficile.
Bien sûr.
Pour les 50 milliards, moi, je pense que ça va être. Je vois pas comment on va. Enfin, soit on va renoncer à cet objectif de effectivement revenir à 3% en 2027.
Ouais.
Soit on va devoir augmenter un impôt majeur, à mon avis. Ça va être soit la TVA, à mon avis, on va entendre parler d'une hausse majeure d'impôts et on va commencer à discuter de ce genre de choses, ce qui va être très mauvais pour la croissance. Donc pour continuer le fil, moi je suis plutôt assez pessimiste, enfin, si vraiment les prévisions sont réalisées, c'est-à-dire si on essaye de revenir à 2,7% en 2027,
ça va, c'est ce qui était dans la dernière loi de programmation de finances publiques.
Ça va peser sur la croissance très très fortement.
Mais alors, vous dites, sauf à ne pas tenir l'objectif de 2027, est-ce que ce serait si grave que ça, si finalement le gouvernement s'asseyait sur le retour sous les 3% en 2027 vis-à-vis de nos partenaires européens et des marchés ?
Non.
Ou est-ce qu'il le comprendrait ?
Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument iconoclaste à voir les Européens s'évertuer à respecter des règles d'orthodoxie budgétaire au moment même où l'intensité du conflit russo-ukrainien, en tout cas l'étape, on rentre dans une étape déterminante. Au fond, nous serions dans la situation de la Seconde Guerre mondiale où l'oncle Sam, avant de s'engager aux côtés des Européens pour repousser les armées hitlériennes, décidait de respecter des règles d'orthodoxie budgétaire. C'est quelque chose qui me semble totalement aberrant. Donc il y a un moment, il faudra qu'il y ait un alignement entre les objectifs économiques budgétaires et les objectifs géostratégiques. Le problème aujourd'hui, c'est que les partenaires européens sont en ordre dispersé. Aujourd'hui, on a une réunion à Berlin qui réunit le groupe de Varsovie, les Allemands, les Polonais. Et on peut dire, sans divulguer de secret, c'est qu'il y a une divergence franco-allemande. Le couple franco-allemand, si tant est qu'il ait existé un jour, on peut dire qu'aujourd'hui, il divorce. Il est en train de divorcer. Il est dans une phase de potentiel divorce. Ouais. Et ça ne va pas faciliter les choses. Donc, probablement que pour pouvoir s'exempter d'une certaine façon des règles budgétaires.
Vous dites qu'il faudrait refaire ce qu'on a fait comme pendant la pandémie, mettre de côté les règles budgétaires.
Voilà, c'est ça. Ça a été évoqué hier par le président de la République, je crois, dans son interview.
Il a dit faudrait refaire la dette en commun. Ouais, voilà, il n'a pas dit mettre de côté le.
Ouais, parce que la difficulté de votre proposition, et je la comprends parce que c'est vrai qu'on est dans une période qui est à nouveau très particulière, c'est qu'on vient de sortir d'une période où on les a mises au frigo, ces règles. On les a suspendues pendant le Covid. Et là, on est en train de nous dire, au moment où on les remet, il faut à nouveau les suspendre. Donc, c'est-à-dire qu'on les appliquera jamais. Mais quel est le problème de ne pas les appliquer ? Parce qu'on peut dire qu'on les appliquera jamais. Le problème, et je crois que la Cour des comptes l'a bien dit aussi cette semaine dans sa partie finances publiques sur son rapport annuel, c'est pas qu'on va avoir du mal à financer la dette de la France. La dette de la France, elle se finance bien. Le problème, c'est que la charge de la dette devient de plus en plus importante. On est à 50 milliards cette année. On sera à 70 ou 80 milliards en 2027. Donc, la charge de la dette, et ça... Pardonnez-moi, c'est de l'argent pas jeté par la fenêtre, mais enfin perdu, c'est-à-dire c'est de l'argent qui bloque la capacité d'investissement et d'augmentation de la croissance potentielle de la France, et y compris
cet effort de la dette,
on préférerait peut-être le faire sur le budget de la défense, mais le remboursement de la dette, ça va être bien supérieur au budget de la défense. Donc, je pense qu'on est dans quelque chose d'assez inextricable si on ne fait pas cet effort, et il faut quand même rappeler que d'autres pays européens, et non des moindres, l'ont fait, le Portugal... La Grèce, si je ne m'abuse, est en excédent primaire, mais je parle devant des économistes. L'Italie, qui est en mauvaise santé, est aussi en excédent primaire. Donc on a quand même un vrai problème de capacité à maintenir notre budget. Et ce n'est pas un problème simplement qu'on va être surendetté. Ce n'est pas ça. C'est qu'un problème, c'est qu'on va,
ça va nous coûter
enlever
de plus en plus cher.
La capacité à investir, à préparer l'avenir et à renforcer demain les ressorts de l'économie française.
François Girolf.
Alors peut-être deux points de nuance. Enfin, sur la charge de la dette, c'est la charge d'intérêt nominal. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'inflation, en fait, dans cette charge de la dette. L'inflation nous aide beaucoup, en fait, actuellement. On a un déficit supérieur à 5%, on l'a dit, et pourtant, la dette baisse en pourcentage du PIB, ce qui est un paradoxe. Alors, c'est vrai qu'en France, elle baisse moins vite que chez nos partenaires européens. C'est pour ça que, d'ailleurs, le niveau de la dette sur PIB est passé au-dessus de l'Espagne et du Portugal. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus que l'Italie et la Grèce qui ont plus de dettes que nous en pourcentage du PIB en zone euro. C'est vrai que quand on se compare aux pays de la zone euro, on a l'impression qu'on est plutôt un mauvais élève. Après, effectivement, les États-Unis ne se posent plus du tout ce genre de questions. La dette, ils ont décidé qu'ils s'en fichaient. Le Japon a beaucoup plus de dette que nous, donc ça dépend en fait à qui on se compare. C'est vrai que par rapport à nos partenaires européens, c'est pas terrible, mais maintenant l'inflation nous aide quand même beaucoup, parce qu'en fait l'inflation, c'est une taxe inflationniste. Quand vous avez de l'argent sur une assurance vie en euros, en fait il y a une taxe qui n'est marquée nulle part, mais qui aide l'État actuellement et qui est assez considérable. Quand l'inflation est de 5%,
mais là, elle baisse, le taux de dette sur PIB, elle va repasser.
Alors, c'est vrai.
Mais c'est vrai. À deux. Donc, cet effet-là va être atténué. Je comprends ce que vous dites.
Et d'ailleurs, finalement, ça montre que l'inflation n'a pas que des mauvais effets. Ouais. Elle n'a pas que des mauvais côtés. Ça aide les débiteurs, ça aide l'État. C'est une taxe qui ne se voit pas, en fait. Et donc, voilà, je pense qu'il faut peut-être un petit peu se détendre sur le sujet de la dette publique.
Oui, se détendre, sauf que on voit bien qu'on a un record, vous l'avez dit, de dépenses publiques en France, sans avoir la qualité et la satisfaction qui va avec. C'est quand même ça le problème. Donc on a un problème d'évaluation.
C'est la réforme de l'État. Voilà, au-delà des économies, c'est l'efficacité de la dépense
cette
publique.
Cette espèce d'addiction à la dépense, elle est quand même très pernicieuse pour l'économie.
Xavier Patrolin.
Oui, non, mais c'est important de parler de la dette. Je voudrais peut-être ajouter par rapport à la note de l'INSEE quand même. C'est important de parler de la dette. Mais il y a quand même un élément positif, puisque la note de l'INSEE,
c'est le reflet de l'inflation, non
voilà, c'est ça. Et surtout, les hausses de salaire. Il y a un effet de retard par rapport aux hausses de salaire. Ce calcul avec.
Le pouvoir d'achat va progresser léger.
Oui, mais ça va être un facteur, malgré tout, ça va être un facteur de soutien. Probablement sur la deuxième partie de l'année. Donc effectivement, si on avait une hausse de la TVA à ce moment-là, ça altérerait cette perspective. Ouais. Mais
je pense que le gouvernement ne le fera pas.
Donc pour vous, vous rendez compte. Donc Bruno Le Maire est crédible quand il dit, en gros, on a encore 6 mois compliqués à passer, jusqu'à l'été, et deuxième semestre, les taux vont commencer à baisser, on va avoir des gains de pouvoir d'achat, l'inflation rentre dans le rang, ça va repartir.
Oui,
scénario, il est crédible.
Oui, tout à fait. C'est pas un scénario totalement.
Non, mais trop optimiste, on va dire.
Oui, ça reste optimiste sur les objectifs de croissance, puisque un objectif de croissance à 1%, c'est très ambitieux pour le séquentiel, le troisième et quatrième trimestre. Ouais. Ça suppose.
On va faire 0,7.
Oui, ou quelque chose de cet ordre. Donc ça, c'est très ambitieux, probablement. Mais une croissance sur le troisième.
Mais cette mécanique-là, pour vous, c'est la plus probable.
Voilà, c'est ça. À ce stade, c'est la plus probable.
C'est vrai, mais c'est la fiscalité constante.
Oui.
C'est-à-dire, c'est en supposant qu'il n'y a pas d'économie constante.
Il n'y a pas de choc géopolitique. C'est important. Parce que là, le baril de pétrole semble se réveiller depuis quelques jours, sur la semaine qui vient de se passer.
Oui.
Et le discours présidentiel sur une perspective, même si c'est juste une probabilité, c'est un peu un joker qui a été lancé par Emmanuel Macron, d'un dispositif militaire français qui pourrait se déployer partiellement avec du personnel, soldat, pas soldat, peu importe, sur le sol ukrainien. Ça, c'est quelque chose qui potentiellement, je veux dire, inquiète les agents économiques, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales.
Bien sûr.
Donc forcément, c'est pas un truc qui est propice à la consommation. Ouais. Mais même sur la consommation alimentaire, l'INSEE met dans sa note qu'ils s'attendent, après deux années 2022 et 2023 de fortes décrues de la consommation alimentaire, ils s'attendent à ce que la consommation alimentaire commence...
En volume.
Oui, en volume.
Reprenne plus alimentaire.
Donc c'est des facteurs, malgré tout, de soutien sur... et puis je parle même pas de la demande extérieur qui nous est adressé, qui commence à un peu s'améliorer.
Bon, après, un peu d'optimisme.
Non, mais juste, ça fait deux ans qu'on promet que les salaires vont rattraper les prix. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc, c'est quand même, il y a.
Je ne faisais que citer
l'INSEE. Mais c'est une prévision. Il y a rien qui est garanti. Et pour le moment, les négociations annuelles obligatoires, enfin voilà, il n'y a pas de.
Oui, ça confirme tout ça, bien sûr.
Donc, faut voir si effectivement les salariés vont réussir à arracher des augmentations.
Mais, en tout cas, on essaie de garder espoir pour le second semestre.
BFM Business présente. Good Evening Business, les experts du soir.
18h35, les experts du soir dans Good Evening en direct jusqu'à 19h avec ce soir Xavier Patrolin, Emmanuel Kessler et François Gérolf. Messieurs, on se penche maintenant sur la macro internationale avec les élections en Russie qui ont démarré ce matin et qui durent jusqu'à dimanche. Et cette question qu'on se pose évidemment, où en est l'économie internationale deux ans après le début du conflit en Ukraine? On va commencer par l'économie russe. Parce que force est de constater, visiblement, qu'elle ne s'est pas du tout écroulée, contrairement à ce qu'avaient annoncé les Occidentaux il y a deux ans. François Gérolf.
Oui, non. Je pense que donc c'est très difficile d'avoir des chiffres. Donc il y a une bataille de chiffres. De manière générale, c'est difficile de mesurer le PIB, d'autant plus quand vous êtes de l'extérieur. Par exemple, Eurostat ne s'amuse pas à recalculer les chiffres de la France pour avoir le PIB français. Ils demandent à l'INSEE et l'INSEE leur donne le chiffre. Et en fait, donc il y a une vraie difficulté, je pense. Est-ce qu'on peut croire aux chiffres? Mais Le FMI, voilà, la Banque mondiale, voilà, donne quand même des chiffres de croissance qui sont très très bons, qui sont bien meilleurs que ce à quoi on s'attendait. Donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est assez habituel, notamment les sanctions économiques. On sait depuis un moment que ça marche pas très bien. En réalité, là, ça n'a vraiment pas marché du tout parce que les Russes ont en fait été capables de vendre notamment leur pétrole, leur énergie à d'autres pays que nous. L'embargo en Europe, en fait, n'a pas été suivi totalement. On a mis beaucoup de temps avant de se décider. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on dépendait beaucoup plus de l'énergie russe que ne dépendait de nos achats de leur énergie. D'abord parce qu'ils pouvaient trouver d'autres clients. Et puis, en fait, surtout parce qu'au départ, je pense qu'on a fait une erreur qui était de dire on va couper les approvisionnements russes comme ça. Et en fait, ça a eu un effet très simple, qui est que ça a augmenté le prix beaucoup plus que ça n'a diminué, en fait, les ventes de la part de la Russie. Et donc là, on a fait un petit peu une bêtise. Et on a fait même quelque chose d'encore pire, c'est qu'on a annoncé un embargo futur, ce qui, au niveau des marchés financiers, est le pire que vous puissiez faire, puisque ça veut dire que vous continuez à acheter les mêmes quantités de pétrole et de gaz,
prix qui
et que le prix à des prix qui s'envolent. Donc en fait, ça les a aidés, ça, à très court terme. On a fait énormément d'erreurs comme ça, donc ça paraît évident a posteriori, mais on a fait beaucoup. Et voilà. Et puis de l'autre côté, on avait promis aussi qu'il n'y aurait eu aucun effet sur nos économies. Donc je pense qu'il y avait un aspect aussi de méthode Coué, de convaincre les opinions publiques européennes que c'était la bonne chose à faire. Mais aussi,
nos dirigeants ont vraiment dit ça, que
oui. Alors,
ce serait un dollar pour nous.
Alors il y avait une note notamment du Conseil d'analyse économique à l'époque qui avait fait du bruit et qui disait que l'effet pour l'Allemagne devait être seulement de 0,3% du PIB d'un embargo complet du gaz russe. Ouais. Voilà, donc à l'époque, c'est un débat qu'il y avait eu entre économistes. Moi, j'avais dit que je n'étais pas totalement d'accord. Ouais. Mais de manière générale.
Qui était paru très vite, non? Très tôt. Enfin,
oui, très très vite.
C'est comme je me souviens, le Covid, au tout début, le gouvernement nous disait que ce serait 0,1 point de PIB. Bon, voilà. C'est compliqué d'évaluer des chocs un peu inédits.
Mais même là, ça veut dire, de manière générale, les économistes sous-estiment complètement l'effet de l'énergie et la dépendance à l'énergie. Et là, on s'en est rendu compte. Et c'est une erreur qu'on a fait, en fait, depuis plusieurs années. C'est en fait, quand vous êtes dépendant d'un approvisionnement énergétique, c'est vous qui êtes dépendant et c'est pas la personne qui vous le vend. Ouais. Et donc, essayer de faire des sanctions face à quelqu'un qui est en train de vous vendre quelque chose dont vous avez absolument besoin, en fait, c'est impossible.
CQFD, Xavier Patrollin.
Oui, mais je crois surtout qu'on a découvert la dialectique du maître et de l'esclave. Et que le maître, il est poutinien, il est russe, et l'esclave, il est européen. Ouais. Si on prend un tout petit peu de recul pour faire...
Là, on s'est peut-être affranchi du maître, non?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais c'est un long débat, on va peut-être pas pouvoir l'entamer aujourd'hui, on n'aura pas assez de temps.
Non, mais on a diversifié nos approvisionnements en énergie pour le coup. Ou alors on a peut-être d'autres maîtres.
Le mérite, même s'il est conflictuel, ça a été de recomposer, et on a une recomposition géopolitique des approvisionnements en matières premières qui est quand même intéressante. C'est-à-dire qu'on n'a plus acheté de gaz russe, mais on a trouvé d'autres fournisseurs, le gaz liquéfié. Bon, il y a des effets sur les prix, mais. C'est la conséquence d'une situation géopolitique et d'un affrontement inévitable avec la Russie.
Xavier ?
Oui, alors on va continuer sur cette voie-là, puisque c'est une façon d'aborder le problème. Le différentiel de prix de gaz entre les États-Unis et l'Europe est dans un rapport de 1,4. Le différentiel de prix de l'électricité entre les États-Unis et l'Europe est dans un rapport de 1,3. Donc vous imaginez ce qui est en train de se passer dans l'industrie européenne. Allez discuter avec des partenaires allemands et vous verrez. L'Allemagne est au début d'un processus de désindustrialisation. Donc on continue sur cette logique. Pas de problème. La part du PIB, la part de l'industrie dans le PIB allemand, d'ici 10, 15 ans, va rejoindre la part du PIB de l'industrie dans le PIB français. Donc nous sommes face à une désindustrialisation. Donc c'est une vraie question. Une vraie question, je veux dire, géostratégique, économique, de positionnement. Et d'ailleurs, c'est ça la morale de l'histoire 2 ans après. Donc on a une Russie, une économie russe qui caracole, qui a toujours un excédent de sa balance des paiements, un excédent de sa balance commerciale. Alors c'est parce qu'il y a des problèmes de fabrication d'obus, donc ils trouvent des partenaires assez étonnants. La Corée du Nord, c'est pas glorieux, mais bon, au moins ils arrivent, ils trouvent des obus, des obus qui explosent dans les canons, ils trouvent des obus. Donc au fond, c'est une économie, c'est une direction géostratégique qui s'est préparée. Au fond, la grande différence, Quelle est la grande différence en termes économiques et en termes géostratégiques? C'est que les Russes se sont préparés à cette guerre.
Oui, ils avaient un plan.
Voilà. Et nous n'en avions pas. Nous sommes secs. Et nous allons être secs pour probablement, je ne sais pas si c'est une génération, ou en tout cas une demi-génération ou une génération. Donc la question qui va se poser très vite dans les grands équilibres industriels de développement, on parle de réindustrialisation,
tout à fait,
de souveraineté industrielle, c'est est-ce qu'on continue dans cette logique d'affrontement, de monter progressivement aux extrêmes, ou est-ce qu'on essaye de trouver une solution, disons, d'apaisement, si tant est que ce soit possible. Ça ne cautionne pas les actes de guerre. Les actes de guerre restent répréhensibles. On va être tous autour de la table, on les condamnera. Mais ça veut simplement dire qu'il faut qu'on soit rationnel. Et ce qu'a dit François tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas été rationnels. Nous avons fait des choix irrationnels et qui ont révélé...
Des réponses d'urgence.
Qui ont révélé nos fragilités énergétiques. Qui ont révélé les fragilités énergétiques de l'Allemagne. Là, c'est clair, dans l'alimentation du gaz russe. Mais qui ont révélé aussi les fragilités énergétiques de la France, avec cette espèce de pause sur notre stratégie nucléaire pendant une vingtaine d'années avec le Grenelle de l'environnement, les éoliennes, des dépenses. Et au fond, on s'est retrouvé, je ne parle même pas de la corrosion sous contrainte sur les centrales qui ont fait qu'on a eu un tiers de nos centrales
à l'arrêt.
Donc, c'est ça qui s'est passé dans l'économie européenne. Et au fond, on a une économie du Sud qui actuellement, bizarrement, puisqu'on avait toujours l'habitude...
marche mieux, qu'on appelle l'économie Club Med, d'ailleurs.
Ce qui révèle quand même les bascules qui sont en train de s'opérer.
Je pense qu'il y a beaucoup de sujets dans ce que vous mentionnez. Moi, je ne serais pas aussi sévère sur l'erreur qu'on aurait faite dans les... Je suis d'accord sur le fait, mais on le savait dès le début. Tous les économistes et tous les historiens vous le disent. Les sanctions économiques, ça ne marche pas. Donc, on savait dès le début que ça ne marcherait pas. Bon. Ça n'a jamais marché, je crois.
Y compris SWIFT. Je me souviens, on a tous entendu parler de SWIFT, c'est le système de paiement interbancaire. Bruno Le Maire avait dit c'est l'arme nucléaire financière.
Non, mais ça, c'est de la communication. Les Russes ont trouvé des. Ils se retrouvent effectivement avec une croissance forte aujourd'hui. Néanmoins,
autour des 3%.
Est-ce qu'on pouvait faire autre chose que d'afficher.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre?
Je ne pense pas, parce que sinon. On aurait paru complaisant vis-à-vis de ce que les Russes ont appelé une opération spéciale et qui est l'invasion, l'invasion d'un territoire en Europe et la remise en cause de la paix que nous avions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et ce qu'a dit le président de la République hier va aussi dans ce sens. C'est-à-dire que. Et ce qu'il y a de positif, c'est en effet, malgré tout, une recomposition qui clarifie le jeu. La Russie est l'alliée de la Chine, de la Corée du Nord, vous venez de le dire. Et puis, il y a un monde européen et occidental, une fragilité du côté des États-Unis parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec les élections de novembre prochain, mais une Europe qui doit constituer des alternatives. Et l'Allemagne, désindustrialisation sans doute, mais elle paye sa trop grande proximité avec la Russie pendant des décennies, cette espèce d'aveuglement sur ce qui allait être la stratégie de Vladimir Poutine. Elle paye aussi sans doute la montée en puissance de la Chine, qui fait que probablement son industrie est moins attractive pour les entreprises chinoises qui importaient des produits allemands. Donc il y a toute une série de facteurs, mais je ne crois pas qu'on aurait pu faire autrement que d'avoir des mesures d'affichage assez fortes à l'encontre de la Russie.
Bon, on est tous d'accord évidemment pour dire que c'est l'Europe qui trinque dans ce conflit. Est-ce que les États-Unis et la Chine en profitent économiquement?
Clair net. Les Américains, c'est difficile de leur en vouloir, mais ils nous vendent du LNG très très cher. En plus, au prix,
liquéfié.
Le gaz naturel liquéfié.
Même si les prix ont baissé d'ailleurs.
Les prix ont baissé, donc ils ont convergé. Maintenant, on va être. Mais même si on est dans un delta, dans un différentiel de 50% entre les deux, ça reste en fait un désavantage compétitif considérable, d'autant plus si on se dit que c'est un désavantage à long terme, c'est-à-dire que si on ne rebranche plus effectivement les approvisionnements russes, comme il y avait tout un tas de secteurs énergo-intensifs en Allemagne qui ne fonctionnaient et qui n'étaient compétitifs que grâce à cette énergie peu chère, le simple fait d'avoir une toute petite différence avec les États-Unis fait qu'aujourd'hui les chimistes allemands sont en train de s'installer aux États-Unis
et en Chine.
Exactement.
D'autant que l'Amérique a fait cette Inflation Reduction Act, qui encourage quand même beaucoup les industriels européens aller là-bas.
Et en plus, si c'est Donald Trump qui était élu effectivement,
Lui il va arrêter l'Iran.
il est possible qu'ils commencent à augmenter le prix sur le LNG. Enfin, on va devenir dépendant. Enfin, on est maintenant dépendant des Américains, des États-Unis.
Mais moi, c'est pas pour être dépendant des Américains que des Russes, hein, même si ça doit me coûter.
Mais le problème, c'est que si c'est Donald Trump, c'est pas croissance. Évident qu'il va nous voilà. faire
mais
un
si
cadeau
c'est Trump,
sur le prix.
C'est vrai que là,
sur le prix du LNG.
C'est
un mot.
En novembre, on va peut-être encore avoir des repères géopolitiques totalement.
Et donc aujourd'hui, les États-Unis, donc du coup, ont un boom de leur secteur énergétique. Ils ont une économie en plus qui va très bien. Ils sont capables du coup de faire de la dette beaucoup plus Absolument. Que nous et nous au contraire on est dans une logique de contraction, de baisse du pouvoir d'achat via l'inflation énergétique et alimentaire et qui va se renforcer aujourd'hui via parce qu'on va réduire les manœuvres budgétaires et qu'on veut pas faire de la dette trop. Donc je pense que effectivement clairement l'Europe ressort très très perdante de cette histoire-là, mais en même temps, comme vous l'avez dit, hein, il s'agit pas de dire que il fallait pas faire de sanctions économiques. Peut-être juste, on aurait pu le faire de manière un peu plus intelligente, parce qu'il faut pas juger seulement les actions par leurs intentions, mais bien aussi sûr. Par leurs effets. C'est-à-dire bien que si vous êtes en train d'aider, même si sur le papier on a l'impression que vous êtes en train de sanctionner la Russie, mais qu'en fait le prix augmente, donc ils ont plus de revenus en devises.
Des effets de manche, des effets de communication.
Voilà, donc ça c'est terrible. Et c'est vrai que les Européens, on est très fort dans ça, hein, c'est-à-dire on a des bonnes intentions. Mais au final, le point de vue pragmatique force à dire que on ressort de cette histoire très très affaibli.
Très affaibli. Bon, l'éléphant au milieu de la pièce, évidemment, c'est la Chine. Et face à la Chine et à ses ambitions dans l'électrique, deux ennemis jurés jusqu'à présent de l'automobile, Nissan et Honda, ont annoncé aujourd'hui vouloir faire une union sacrée face à la menace chinoise, donc dans l'avenir de la voiture. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que la menace chinoise dans l'électrique est si forte que ça ? Parce que pardon, enfin, c'est comme si en France on avait Stellantis et Renault qui se disaient, on se serre les coudes parce que là on a un tel raz-de-marée qui arrive qu'on n'a pas le choix,
Ça va peut-être arriver.
Est-ce que la menace chinoise dans l'électrique est si forte que ça ? J'ai repris les chiffres l'an dernier. Alors c'est que la France, le BYD, la fameuse marque, est devenue numéro un mondial. Hein, ils ont vendu 500 voitures en France, 523.
Oui.
Est-ce qu'on n'a pas quand même, voit un rouleau arriver, mais est-ce qu'on n'a pas le temps de contre-attaquer face à ce rouleau compresseur ?
Je crois que ce qui leur fait peur, c'est que sur le marché chinois, ils sont en train de perdre la bataille. C'est-à-dire qu'au départ, dans les années 2000, on se rappelle, on a fait la même chose d'ailleurs, nous, avec nos multinationales. On a, pour accéder au marché chinois, les Chinois nous ont forcés à former des co-entreprises avec les entreprises chinoises. Il y a eu des transferts de technologies assez considérables. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les Chinois sont devenus plus forts que nous du point de vue technologique. Et en fait, y compris sur le marché chinois auquel on avait essayé d'accéder justement en formant ces co-entreprises, aujourd'hui, ces entreprises sont en difficulté et en perte de vitesse. Et donc,
ils sont très très forts chez eux, mais en dehors, pour l'instant, non.
Non, c'est vrai, mais je pense qu'ils voient du coup la puissance de feu de ces entreprises, ils voient qu'ils ont un avantage technologique et ils doivent se dire effectivement le moment où ils arrivent sur les marchés occidentaux, c'est eux qui seront les plus forts.
On a le sentiment que ça va assez vite. Alors on a pris quelques mesures protectionnistes de suppression des bonus pour les constructeurs chinois, mais
peut-être des droits de douane européens.
Ça les empêche pas de dominer dans ce qu'il reste des grands salons automobiles européens. On a l'impression qu'il n'y a pas de frein quand même chez les consommateurs européens vis-à-vis de l'achat de voitures chinoises la plupart du temps parce qu'elles ne sont pas très chères malgré les suppressions de ces bonus. Donc on a le sentiment que, j'allais dire, la vitesse est enclenchée et que la progression de ces marques va être rapide dans les années à venir.
Xavier Patrolin, c'est inéluctable le rouleau compresseur chinois ?
Je pense que là, ce qu'on a vu ce matin du côté de Tokyo, c'est un acte désespéré de deux acteurs qui prennent peur et qui sont de sortir du marché. C'est là ce qu'on appelle souvent sur ce plateau la fameuse disruption.
Non, mais ils l'ont dit eux-mêmes, ils disent si on ne bouge pas, on est mort.
Voilà. Donc c'est une opération de survie. À mon avis, ça va donner quelque chose d'assez étonnant. L'échec est probablement au coin de la rue pour eux. Donc c'est courage, fuyons. Mais surtout, non, le problème de la Chine, c'est qu'ils maîtrisent toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire des terres rares, jusqu'aux aimants, jusqu'aux moteurs électriques. Donc ils maîtrisent absolument, c'est-à-dire qu'ils ont des parts de marché sur ces composants à l'échelle mondiale qui oscillent entre 50, 70, 80%. Et donc ça vous donne une position, et en plus ils ont le soutien évidemment du Parti communiste chinois, donc ça leur donne une position de cheval de Troie pour pénétrer tous les grands marchés occidentaux qui est absolument spectaculaire. Donc on voit que le seul opérateur qui est inspirant, c'est Tesla. Et Tesla, on en parlera tout à l'heure, mais Tesla, c'est un raisonnement out of the box. C'est-à-dire que Tesla a repensé complètement l'approche de cette vieille industrie qui est le pilier de la révolution industrielle du 20e siècle, qui est le taylorisme, qui est le secteur automobile.
Mais même Tesla a peur des Chinois. Hein.
Oui, mais...
Il baisse ses prix, enfin, oui. Il a bien conscience que
c'est la menace. Ils ont des positions critiques sur les éléments... C'est-à-dire que la valeur ajoutée est complètement déplacée. Et donc, c'est les historiques du thermique, du carboné, ouais. se repartent d'une certaine façon quasiment à zéro. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Et reprenez les déclarations...
C'est-à-dire que la marque, par exemple, dans l'automobile, ça a toujours été un actif fort. La marque, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien.
J'exagère un peu. Non, la distribution, ça vaut quelque chose. Le réseau de distribution vaut quelque chose. Alors, c'est un des obstacles...
La marque imaginaire, le marketing.
La preuve, c'est que Tesla, c'est une marque.
Oui, mais c'est une marque qui s'est construite sur très peu de temps.
Non, mais par exemple, toutes les marques allemandes, la valeur de la marque, elle vaut plus grand chose.
Non, mais en tout cas, elle est extrêmement interrogée et elle n'est pas du tout acquise. C'est-à-dire que, et notamment dans le cas de Volkswagen avec le scandale du diesel, il y a une interrogation.
Non, mais je pensais au premium, à Audi, BMW, Mercedes.
Mais je pense surtout qu'il y a un suicide.
C'est des marques en danger, quoi.
Oui, mais je pense qu'il y a un suicide européen qui rejoint notre précédent sujet. C'est-à-dire qu'on a organisé, notamment avec l'interdiction des ventes de véhicules thermiques à horizon 2035, on a organisé le déclin de ce qui était l'un des principaux atouts industriels de l'Europe. Puisque l'industrie automobile européenne était une référence à l'échelle mondiale, on va dire pré-scandale de Volkswagen. Ouais. Il y avait les Coréens, les Japonais et l'industrie automobile européenne. Là, on est en train de se phagocyter. Et Nissan fait ce mouvement après être en train de sortir progressivement de l'alliance avec Renault. Et c'est une espèce de fuite en avant qui n'est pas du tout... Et qui, d'une certaine façon, interroge des acteurs automobiles européens comme Renault et surtout interroge les pouvoirs publics européens sur ce qu'ils veulent faire. Parce que le rouleau compresseur chinois, sans en exagérer un peu, est en train de diffuser. Et quand vous voyez que Xiaomi,
des téléphones aussi, ils veulent faire maintenant des voitures.
Va a présenté il y a une semaine ou deux semaines un véhicule électrique.
Ouais.
Donc ça vous donne une idée de la
situation. Il y a une grande difficulté.
Le mot de la fin pour vous, Emmanuel.
Pour ces vieilles industries. Ouais. Et on n'a pas beaucoup dit, mais j'ai le sentiment quand même que Renault se retrouve un peu en difficulté, parce que l'alliance avait déjà un peu du plomb dans l'aile, mais elle en a encore plus. Il y a eu quand même cette annonce du projet Ampère, qui est la filialisation de l'activité électrique de Renault, avec l'affichage d'un retrait de l'entrée en bourse, qui est pas très bonne. Et là, avec cette affaire-là, on a l'impression que Renault s'isole de plus en plus.
Ça interroge aussi.
Donc effectivement, sur notre industrie automobile nationale, ça accroît les interrogations.
Allez, ce sera le mot de la fin, les arrêts de jeu de Good Evening. On y est, 18h54. L'extra time, vous avez 30 secondes chacun pour nous donner vos coups de cœur ou coups de gueule de l'actu. On commence avec vous, François.
Alors, une bonne nouvelle pour une fois. Donc un coup de cœur, c'est le contrat de Naval Group, enfin que Naval Group vient de remporter avec les Pays-Bas, avec quatre sous-marins. Enfin, c'est une très bonne nouvelle et ça montre quand même que la France est capable dans l'industrie de réussir. Alors là, c'est l'industrie de défense. C'est un petit peu particulier. Ça dépend beaucoup de la commande publique. Et donc en fait, quand ça dépend de la commande publique, on a l'impression quand même que la France est beaucoup plus capable de tirer son épingle du jeu parce que il y a une forme de stabilité dans la demande et donc on arrive très bien à faire ça. Donc c'est une très bonne nouvelle pour une fois.
Ouais, nouveau succès pour la défense française, sauf quand c'est les Australiens qui nous poignardent dans le dos. Emmanuel Kessler.
Alors, je vais sortir de l'économie. J'ai été assez admiratif de l'entrée de Sylvia Nagasinski à l'Académie française. Vous savez, c'est l'épouse de Lionel Jospin, qui est une philosophe, qui a écrit de très nombreux livres sur et qui incarne un féminisme d'ouverture, un féminisme qui n'est pas conflictuel. Et je trouve qu'à notre époque, et justement dans ce moment où le féminisme a pris des atours parfois de guerre des sexes, eh ben, elle incarne autre chose avec le refus de la théorie du genre ou encore la critique de la GPA qui n'est pas autorisée en France mais qui soulève débat. Et donc je trouve que c'est intéressant que cette femme qui incarne un féminisme déterminé mais ouvert entre à l'Académie française. C'est aussi inspirant, je pense, pour nos entreprises.
Le message est passé, Xavier Patrolin, pour vous.
Moi, c'est le troisième lancement Starship qui a eu lieu hier. Et c'est un troisième échec, mais qui est un échec riche de promesses. Vous saviez que le directeur du vol Apollo 13 avait comme ligne de conduite « Failure is not an option ». Et là, Elon Musk...
L'échec n'est pas une option.
Et Elon Musk a comme philosophie « Failure is an option ». Et donc, on travaille avec l'échec, il apprend énormément. Mmh. Et c'est pour avoir une fusée récupérable.
Ouais.
Et c'est un vol qui a duré plus d'une heure, à plus de 150 à 200 km d'altitude. Donc, ils sont vraiment sortis dans l'espace. Et il y a plein d'éléments positifs qui se sont déroulés au cours de ce vol, au-delà de l'échec apparent.
Tout à fait.
Presque respecter les gongs.
Vous avez bien...
On commence à être entraîné.
Dépasser is not an option. Merci infiniment à tous les trois. Non, on va pas jusque-là quand même. Merci infiniment d'être venu, François Gérolf à l'OFCE, Xavier Patrolin à Batros Capital, Manuel Kessler, journaliste économique. C'est la fin de Good Evening Business. On se retrouve lundi, enfin vous retrouvez lundi Guillaume Paul et Audrey Tcherkov en direct à partir de 18h. Et dans un instant, les pionniers avec Fred Mazzella. Très bonne soirée et très bon week-end sur BFM Business.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.